C'est parti pour la recette adorée de sa belle, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Il est 12h, Émilie Dez.
Bonjour à tous. Ces gens ne sont pas des démocrates, dénonce Raphaël Glucksmann. Le candidat PS aux européennes a dû être exfiltré, empêché de rejoindre le cortège de Saint-Étienne en pleine manifestation du 1er mai. Il a reçu de la peinture, a été insulté par une cinquantaine de personnes, certaines appartenant selon lui à la France insoumise. Ailleurs, l'ambiance est plus calme. En tout cas, à Marseille, où vous vous trouvez, Stéphane Burgat? On n'a pas Stéphane Burgat. Ah, si, non?
Oui, allô?
Oui, Stéphane, bonjour.
Bonjour, connexion difficile, désolé.
Donc le cortège est parti il y a un peu plus d'une heure et demie à Marseille.
Oui, c'est ça. Parcours assez réduit, hein, cette fois-ci, dans le centre-ville de Marseille, entre le Lot, la Canebière et la Porte d'Aix. C'est peut-être 4-5 000 personnes, grand maximum pour ce cortège sous la pluie, crash ainsi. À Marseille, un seul mot d'ordre, en tout cas, les salaires. Écoutez, l'urgence, en tout cas, c'est la vie de Christian, qui est un artisan à la retraite.
C'est le problème le plus important, c'est pouvoir d'achat, c'est niveau de vie. Hein. Mais là, ça prend une tournure qui est effroyable en ce moment, hein, y compris pour les retraités dont je suis. Ah ben oui, c'est une urgence. Ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de fédérer les gens, parce qu'on arrive à un point où il y a tellement de gens qui sont en situation difficile qu'ils ne s'engagent pas dans le combat syndical, militant.
Merci Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille, à Paris. Le cortège doit partir à 14h cet après-midi de la place de la République, direction Nation. Ce mercredi 1er mai s'accompagne aussi de son lot de changements, des changements qui vont impacter le porte-monnaie des Français. Le kilowattheure de gaz naturel coûte désormais 1,4% plus cher. À partir d'aujourd'hui aussi, il faudra payer un forfait de 100 € pour utiliser votre compte personnel de formation. Les demandeurs d'emploi sont exemptés, tout comme les salariés dont l'emploi employeur prend en charge le montant. Les États-Unis sont déterminés à obtenir maintenant un accord Israël-Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a affiché sa fermeté avant de rencontrer le premier ministre israélien. Le Hamas qui a jusqu'à ce soir pour donner sa réponse à l'offre de trêve avec Israël. Aux États-Unis, les campus américains s'enflamment autour de la guerre à Gaza. Des affrontements ont éclaté la nuit dernière sur le campus UCLA à Los Angeles en marge de manifestations pro-palestinienne. À l'est, la police de New York est intervenue pour déloger les manifestants pro-palestiniens qui se barricadaient dans un bâtiment de l'université Columbia. 40 départements sont en vigilance orange aux orages des Hauts-de-France à la Bourgogne, en passant par l'Île-de-France. Des orages qui s'annoncent virulents avec de la grêle, des bourrasques et une activité électrique marquée. L'alerte orange démarre à 17h. Et puis du foot avec la suite des demi-finales allées de la Ligue des Champions. Le PSG affronte le Borussia Dortmund à 21h. Hier, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un match nul de partout.
Merci beaucoup, Émilie. Il est 12h03.
Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous.
La deuxième heure de notre émission. Les radars n'ont jamais autant rapporté d'argent. 2 milliards d'euros l'année dernière, une hausse de 7% selon un rapport de la Cour des comptes. Des radars toujours plus nombreux, plus de 4660 dans le pays, 130 de plus qu'en 2022. Vous avez été peut-être flashé ces dernières semaines. Vous avez perdu plusieurs points. Radar près de chez vous, vous flash, à tout va. Les recettes sont utilisées pour améliorer l'état des routes. Mais franchement, vous vous demandez où va l'argent quand on voit l'état précisément de certaines nationales, autoroutes comme la 13, départementale, recette pour des projets, pour la sécurité routière, mais la mortalité augmente. Alors où va l'argent? Je propose d'écouter Rémi Jossaume, il est avocat en droit routier. Il était interrogé par Laurent Tessier pour Europe 1.
Ce n'est qu'un début, puisque nous allons assister dans les prochains mois, dans les prochaines années, à une généralisation d'autres modes de constatation d'infractions, avec des radars nouvelle génération, des radars de covoiturage, des radars qui vont pouvoir être installés par les maires, donc localement décidés par des mairies, le développement et le déploiement des radars mobiles, c'est-à-dire avec des agents privés qui vont circuler sur les voies et qui vont flasher les automobilistes en circulation. Donc ce chiffre n'est que le commencement d'un matraquage annoncé des automobilistes avec, malheureusement, peu d'effets sur la sécurité routière parce qu'on l'a vu encore le mois dernier, les chiffres stagnent, voire reculent et on voit que finalement, il n'y a plus de corrélation entre le contrôle vitesse et les chiffres de l'insécurité routière.
Alors, je vous propose d'écouter Alexandre, qui est prof en Belgique et qui va parler des radars. Bonjour Alexandre.
Bonjour Monsieur Prouet, de la région de Liège. Donc on est toujours dans la même localité avec l'interlocuteur précédent.
Exactement, puisqu'il part pour Dortmund et il passe par Liège manifestement et il est donc tout proche de vous. Il y a des radars en Belgique ?
Nous en avons aussi, mais nous procédons différemment qu'en France. Donc il y a le radar fixe, il y a aussi le radar tronçon, il y a aussi les radars au feu rouge, etc. Donc plusieurs types de radars, on procède différemment. Et moi, je vous avoue, vu de Belgique, j'ai parfois l'impression qu'en France, on fait pousser les radars comme on fait pousser les champignons durant l'automne. Et que, justement, comme l'a dit l'interlocuteur qu'on vient d'entendre, c'est pour faire rentrer l'argent dans les caisses. Vous prenez l'exemple de l'autoroute A31, entre la frontière luxembourgeoise et Nancy, route des vacances pour de nombreux Belges descendant vers le sud. Vous passez de 110 à 90 à 70, on vous met un radar à chaque fois, vous avez les gens qui freinent, mais limite, si vous êtes distrait, c'est le carambolage assuré. Donc moi, je rejoins parfaitement ce qui a été dit, où finalement, on dit qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de radars et la diminution des accidents de la circulation.
Je pense Alexandre, si vous respectez la limitation de vitesse, pardonnez-moi de le dire comme ça, vous ne serez pas flashé. Alors votre exemple de 130 à 90 à 70, ça ne se fait pas en 100 mètres. Il y a des panneaux, vous savez très bien quand vous êtes sur l'autoroute, quand vous traversez une ville, que vous allez passer à 90 et après à 70. Ça s'appelle le code de la route, vous êtes marrant.
Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est flashé parfois pour 1 ou 2 km.
Non, maintenant on n'est plus flashé pour 1 ou 2, ça c'est pas vrai.
Je vous garantis que...
Non, parce qu'on retient déjà 10%. Donc, par exemple...
Oui, mais la marge est faible.
Non, écoutez, si on est flashé, par exemple, on est à 70 km/h. À 71, 72, 73, 74, on ne sera toujours pas flashé. À 75, on ne sera pas flashé. On sera flashé à 76, je crois, ou à 77, il y a 10% de marge, et ça sera ramené à 71. Donc vous êtes déjà 10% au-dessus. C'est quand même pas... C'est compliqué de garder ces points, je veux dire... Si
Monsieur
on est un peu concentré.
Est-ce que vous êtes déjà fait flasher, de vous à moi?
Oui, je me suis fait flasher, bien sûr.
Et
je me suis fait flasher.
Soyez honnête, le dernier excès de vitesse pour combien, de vous à moi, comme on est en la franchise?
Oui.
Le dernier excès de vitesse.
Mais moi, je roule pas très vite. Et puis quand tu perds un point, c'est pas très grave. Tu le récupères très vite.
Mais c'est ça le problème aussi chez vous, c'est que justement on flash parfois les petits excès de vitesse.
Mais plus, maintenant plus, puisque justement on perd plus de points aujourd'hui, on paye, mais on ne perd plus de points pour le petit extrait de vitesse. On en perdait jusqà, je crois que c'est depuis le 1er janvier.
Il y a pas longtemps, oui.
Géraldine va vérifier.
Je vais regarder.
1er janvier, oui. Gérald Darmanin qui a décidé de ça. Je vous assure, si vous respectez le code de la route, il y a toujours une possibilité d'être distrait, bien sûr. Mais en fait, ce qui est ennuyeux, c'est pour les professionnels, ceux qui font 60 ou 70 000 km par an.
C'est
vrai que pour eux, je pense que c'est plus difficile pour moi qu'en fait 10 000 ou 15 000 simplement par an, comme tout le monde. Mais ceux qui sont toujours sur la route, je comprends. Mais pour les autres, tu fais attention quand tu prends ta voiture et puis voilà.
Alors, on est prudent maintenant. Oui, maintenant, vous pouvez toujours être distrait. Et moi, je vous dis, moi, les dernières infractions, c'est chaque fois pour quelques kilomètres heure. Et honnêtement, ça cogne. Hein, le voisin luxembourgeois, donc pas loin de Nancy, ou Metz, je me suis fait flasher déjà à 72 au lieu de 70. Parce qu'eux, il n'y a pas la marge.
Non, mais c'est ramené à 72.
Donc, c'est beaucoup plus logique de faire des radars tronçons comme en Belgique. Les radars tronçons, c'est beaucoup mieux.
Monsieur Alexandre, vous n'êtes pas honnête. Pardonnez-moi. S'il s'est fait flasher à 72 au lieu de 70, c'est vitesse retenue, et déjà, il était à 79.
Donc, au Luxembourg, la marge d'erreur, c'est 2 km/h, au Luxembourg.
Ah bon ?
2 km/h, la marge d'erreur, au Luxembourg.
Vous êtes sûr de ça ? On va vérifier.
Oui, mais je vous assure. Et je veux dire, je pense que le radar tronçon est beaucoup plus pertinent. Oui, mais je vous assure.
Parce que nous, en France, c'était, on est d'accord, c'était combien la marge d'erreur des radars, c'était 10% ou 5%? C'était 10%,
10%,
je crois. 10%,
oui.
Ouais, c'était 10%. Donc, t'avais une petite
généreux
marge.
C'est chez vous, parce que nous, en Belgique,
moi, je me mets, écoutez, je suis plus comme tout le monde. Quand je vais sur l'autoroute, j'ai le petit limitateur, là, je sais pas quoi. Mmh. Là, hop, tu le mets à 136, 137, et puis voilà, après, tu bouges plus. Voilà, je fais comme tout le monde.
La frontière luxembourgeoise à Nancy, monsieur Pro, bon courage. Ça oui, change tout le temps, les
je suis d'accord avec vous, mais quand je vais à la boule, je passe pas par le Luxembourg. Donc,
Ah oui, non, mais je sais pas si vous allez en Lorraine française.
Je vais tenter la
Faire,
j'irai, j'irai.
Oui, je suis bien d'accord, mais vous pouvez toujours aller dans le Grand Est, c'est une belle région aussi,
mais
la cathédrale
de Metz.
Je
suis beaucoup allé à Metz, beaucoup, j'adorais aller à Metz.
Sur cette autoroute-là, monsieur Pro, vous verrez, les limitations changent tout le temps.
Oui,
ce serait beaucoup plus pertinent
un
radar tronçon ou adapté aux réalités
c'est
de la circulation.
C'est quoi un radar tronçon
en Belgique? Alors le radar tronçon, donc on prend votre plaque d'immatriculation par exemple à la bande kilométrique 10, on la reprend à la bande kilométrique 20 et ils établissent une moyenne sur base de votre temps de parcours.
Ah oui.
C'est beaucoup plus logique, vous allez effectuer un dépassement d'un camion par exemple.
Ah non, parce que
camion,
oui, on ne peut pas accélérer entre les radars.
Si, mais justement, comme ils font une moyenne quand vous dépassez, si vous dépassez monsieur Pro, en Belgique c'est 120 km/h sur autoroute, vous allez faire un petit 125 pour dépasser un camion.
C'est 120 km/h au Luxembourg les... L'autoroute
En Belgique, c'est 120 et au Luxembourg, c'est 130 comme chez vous et 110 par temps de pluie. En Belgique, c'est 120.
On adapte la circulation. 120
chez nous, oui. Et on adapte. Et alors, pour, sous la pluie, bah, c'est à l'appréciation du conducteur. Donc,
il n'y a pas de pluie en Belgique, ça arrive de temps en temps.
Ah, pour ça, il fait beau aujourd'hui. Par rapport à Marseille, apparemment, si j'en prends votre correspondant, on a du beau temps pour l'instant.
Bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre?
Donc je suis enseignant, vous l'avez dit, et apparemment j'ai des dons d'imitation de certains de vos chroniqueurs dans leur dépro.
Qui
donc
vous
voilà,
imitez
Monsieur Goldnadel, apparemment je l'imite très bien.
Ah, donc, bah, imitez-nous Monsieur Goldnadel, parce que alors imitez, et puis on va lui faire écouter ce soir, imitez.
Bonjour Monsieur Pro, c'est Monsieur Goldnadel à l'appareil. Je voudrais vous parler des radars, le problème des radars en France. C'est parfois révoltant, c'est flashé pour 2 ou 3 km heure, vous l'entendrez bien.
Ça, c'est le frère de Goldnadel, c'est pas celui que je reçois, c'est pas Gilles William, celui-là, c'est son fils.
C'est Gilles William après un Covid long.
Et vous avez une autre imitation?
Pour l'instant, je me suis concentré sur Monsieur Goldnadel, maintenant je peux me concentrer sur vous, je suis en phase test.
Mais ne vous dispersez pas, Alexandre.
Non, n'y allez pas, j'ai déjà quelques imitateurs, ça suffit. J'en ai 2 ou 3 qui traînent, donc j'ai pas envie d'en avoir un de plus. Bon, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Vous avez offert il y a la tradition du muguet également en Belgique?
Oui, j'ai été l'offrir à ma grand-mère ce matin.
Donc,
on l'offre aussi. Donc elle est née en 41, donc déjà 83 ans. Hein,
ah oui, effectivement. Et à votre fiancé, il n'y a pas de fiancé, peut-être, Alexandre?
Non, mais je vais offrir aussi à ma maman. On l'offre aux personnes qu'on aime en Belgique, ou bien, comme chez vous, en France.
Oui, généralement, on offre des fleurs aux gens qu'on aime, tant qu'à faire. Ben, là, il y a Monsieur Boubouk qui vient de m'offrir
un petit
bouquet.
Elle est revenue, le temps du muguet.
C'est un muguet sauvage, hein.
J'adore l'odeur
de
muguet.
Ouais, moi aussi. Merci de nous avoir mis cette chanson tellement gay.
Francis Lemarque, 1959. C'est nouveau. Ils sont bons, non? Sentez-le. Sniffez-le.
Moi, j'ai une rose en plus.
Sniffez-le.
Mais ça va pas, excusez-moi. Non, là, je vais trop loin.
Non, mais votre habitude.
Humez-le.
Voilà. Non, mais c'est bon le muguet, mais c'est vrai, c'est une tradition qui perdure, hein, parce que vous savez où il est, où il pousse le muguet.
Oui, bah dans les sous-bois.
Non, mais principalement dans quelle région de France il est récolté?
Alors attendez, ça va me revenir.
Dans la région de Nantes.
Ah oui,
Nantes, notamment, c'est là qu'on fait du muguet et tous les producteurs de muguet.
Mais pourquoi c'est surtout à Nantes?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je sais que c'est.
En tout cas, je sais quand est-ce que c'est apparu, etc.
Là,
oui, vous savez, vous? En quelle année c'est apparu? La tradition?
Non, je ne sais pas.
1561. Eh oui, c'est le roi Charles IX de France qui a instauré la tradition. Voilà. Eh oui, on a de la mémoire ici et des compétences.
Il y a une feuille qui vient de tomber, Olivier.
Je vous félicite.
Merci.
Bon, il y a plein de flottes dans votre muguet, j'en ai partout, c'est vraiment agréable.
Ah, pardon.
Bon.
C'est pas de
c'est
la
très
bon,
gentil.
On va marquer une pause et on vous remercie d'être avec nous en ce 1er mai et on va changer de sujet. De quoi va-t-on parler, monsieur Tessier?
Ah, ici, on a acheté un camping. Ça, c'est bien, ouais. Ça.
Vous voulez qu'on achète un camping?
Oui, Jeanne et Romain l'ont fait.
C'était
dans le département de la Sarthe.
Tout le camping.
Ah, tout le camping.
Pour être des hôteliers de camping, accueillir les gens d'une certaine manière.
C'est le principe d'un camping.
Faire la danse des tongs.
D'accord.
Vous
avez déjà dormi dans un camping?
Ah, bien sûr. Pas vous?
Il est 12h14. À tout de suite.
Vous voulez réagir avec Pascal Pro 01 80 20 39 21. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.
On en parle.
L'insuffisance cardiaque est une maladie invisible qui touche plus d'1,5 million de personnes en France. Reconnaître les signaux d'alerte est essentiel pour la détecter et la prendre en charge. On en parle avec Isabelle, bonjour.
Bonjour.
Alors dans votre cas, quel a été le premier signe qui vous a alerté?
Eh bien, un matin, en m'habillant, j'ai remarqué que mes pieds et mes chevilles étaient anormalement gonflés. Alors j'ai tout de suite pris rendez-vous chez mon médecin généraliste.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
Alors il m'a appris que ça pouvait être un signe d'insuffisance cardiaque. Oh. Tout comme le fait de ressentir une fatigue excessive, de prendre du poids rapidement ou d'avoir un essoufflement inhabituel. Mmh. Et en fait, après un examen, on m'a diagnostiqué une insuffisance cardiaque.
Si je comprends bien, il est donc important de consulter dès que l'on constate l'un de ces quatre signes.
Ah bah évidemment, d'autant plus que ces symptômes peuvent passer inaperçus. Et puis, j'en avais aussi parlé avec mon entourage, et j'ai eu le bon réflexe d'en parler à mon médecin.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis prise en charge et je vis mieux au quotidien.
Merci Isabelle.
On en parle. Pour en savoir plus sur l'insuffisance cardiaque, rendez-vous sur amélie.fr.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh bien, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 750-975 grammes, origine Maroc. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Il était une fois un charmant jeune homme super stressé par l'arrivée imminente de sa dulcinée. Vite, vite, une idée pour dîner. Oh, les tomates rondes en grappe origine France à 1,99€ le kilo chez Aldi. C'est parti pour la recette adorée de Sabel, les tomates à la provençale. Eh, t'as géré, mec. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, offre valable jusqu'au samedi 4 mai. Info sur aldi.fr.
Europe 1.
Pascal Pro et vous. De 11h à 13h sur Europe 1 et on parle camping, Pascal.
Nous parlons camping puisqu'on a tous des rêves, vous le savez, des projets un peu fous parfois. Aimeriez-vous acheter un camping? Nous sommes avec Jeanne, 22 ans, et Romain, 23 ans, qui ont donc racheté un camping à La Ferté-Bernard dans la Sarthe. Et ça fait partie parfois des informations, témoignages que notre ami Laurent Tissier remarque dans la presse régionale, parce qu'il faut lire, cher Laurent, la presse régionale. Et c'est là sans doute que c'est vous avez appris cette information. Ils auront pris un ancien camping municipal. Il compte ouvrir le 1er juillet. Ça s'appellera la Venise de l'Ouest. Prix de départ 120 000 euros quand même. C'est de l'argent. Et puis il y a eu des travaux, d'autant qu'ils sont jeunes. Alors je crois qu'ils sont avec nous et notamment Romain. Bonjour Romain.
Bonjour Monsieur Pro, vous allez bien?
Mais ça va très bien et vous?
Ça va extrêmement bien. Je tenais à vous dire que votre blague, avant de commencer, que votre blague sur les bouchons de Liège est très très drôle et que vos collègues sont un petit peu rabat-joie.
Merci, bon, merci beaucoup Romain.
Bon, d'abord, alors à 22 ans, c'est quoi votre formation? On va essayer de comprendre d'où vous venez et comment à 22 ans on peut être finalement chef d'entreprise. C'est ça que vous faites?
Exact, exact. Alors, on a, avec ma compagne, donc Jeanne, on a des parcours un petit peu différents. Ma compagne, elle, a toujours adoré les campings. Ses parents ont possédé un mobilhome dans un camping quand ils étaient petits. Elle est toujours en vacances au camping. Ses jobs d'été, elle était dans un camping. Donc, elle, son rêve depuis toute petite, c'est de gérer un camping. Moi, j'ai un parcours scolaire un peu chaotique. J'ai fait quatre sujets d'études différents. Du commerce, de l'administration, de l'événementiel, et j'ai un master et je n'ai jamais trouvé une école ou un diplôme qui me faisait aimer le travail en fait. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de sujets d'études différents et à chaque fois je me suis toujours ennuyé. Donc je suis un petit peu un aventurier d'études, mais j'ai jamais trouvé ma voie, sauf dans l'entrepreneuriat. C'est là-dedans que j'ai réussi à m'exprimer un petit peu, à trouver du bonheur en travaillant. Quand j'avais 20 ans, j'ai ouvert une entreprise de vente de glace et de boissons à Annecy. Et là, je me suis mis du coup à entreprendre et à travailler tout seul, de mes propres mains, sans dépendre de personne d'autre que moi. Et c'est là que j'ai découvert ma voix, ma passion. Et aujourd'hui, avec ce camping, je perpétue ça.
Bah, écoutez, tous les chefs d'entreprise parleraient comme vous. Ce qu'ils aiment, c'est entreprendre. Ce joli mot, d'ailleurs, de entreprendre. Ils n'ont pas envie d'avoir de patron, ils ont envie d'une forme de liberté et aussi de prendre des risques. Simplement, à 22 ans, investir à hauteur de 120 000 euros, j'imagine que lorsque vous êtes allé chez le banquier, c'est pas sur votre bonne mine qu'il vous a prêté 120 000 euros. Donc, vous aviez pas montré ou fait vos preuves avant dans l'entrepreneuriat. Donc, vous avez peut-être été aidé, Romain.
Exactement. On a été aidé. Nous, avec Jeanne, on a présenté notre projet à un autre patron de camping qui s'appelle Guillaume Staub, qui est patron de deux campings, dont un du côté de Pornic, qui s'appelle le Haut Village. Mmh. Et donc lui, c'est une personne qui a déjà plusieurs campings, ça fait 25 ans qu'il est là-dedans, donc il lui a proposé le projet. Et donc lui, il s'est associé avec nous, et effectivement, au niveau des banques, ça a beaucoup, beaucoup aidé, parce que lui a un patrimoine, du coup, c'est lui la caution bancaire.
Bien sûr.
Quand à 22 ans, en n'ayant jamais travaillé notre vie, en ayant juste été à l'école, parce que certes, vous avez parlé de 120 000 euros, 120 000 euros, c'est le prix du terrain. C'est le prix du terrain nu, mais pour aménager le camping et en faire un camping habitable et vivable par des touristes, on est très très loin de ces sommes-là.
Parce que là, vous partez pas de rien quand même, le camping existait, c'était un camping municipal. C'est pas un terrain nu, il y avait déjà des bâtiments, j'imagine, des sanitaires, des...
Alors c'est un terrain nu, on a acheté 2 hectares de terrain et dessus il y a simplement un bloc sanitaire. Donc on a juste ça, mais on a donc dû viabiliser des parcelles pour accueillir des mobilhomes. On a viabilisé 17 parcelles. On a creusé 300 mètres de tranchées en espace de 10 jours pour faire passer le courant, l'eau, le gaz, les égouts, etc. Donc ça a été vraiment un travail énorme, mais oui, on a quand même pris un terrain où il y avait 2 hectares d'herbe, et c'est à peu près tout, bon, à part un petit
La Ferté Bernard, a priori, c'est pas forcément touristique. Il n'y a pas la mer, il n'y a pas l'océan.
Il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. On a proposé au maire de La Ferté Bernard de demander au maire de Carnac s'il voulait pas faire venir un ou deux menhirs pour faire venir du monde. Mais non.
Non, mais c'est pas le site touristique. D'abord, ça va être ouvert toute l'année.
Alors, La Ferté Bernard a une spécificité, c'est qu'il y a un vivier ouvrier qui est vraiment énorme, un bastion ouvrier, comme on dit. Ce qui fait que nous, on pourrait avoir une clientèle à l'année, c'est-à-dire des ouvriers qui font des gros chantiers souvent, donc qui sont envoyés par des énormes boîtes.
Donc ça, c'est intéressant. Mais autrement, il y a une clientèle de touristes que vous avez... J'imagine que vous avez fait un plan... comment ça s'appelle? Un business plan. Une étude de marché ou un business plan. C'est ce qu'on fait généralement. J'imagine que vous avez fait ça.
Exactement, les banquiers appellent ça un prévisionnel, hein, c'est pas un expert comptable. Pour moi, selon moi, ça reste quand même du papier, ça reste quand même une prévision.
Ah oui, ça reste du papier,
là, en fait, on reprend un camping qui est fermé depuis 10 ans. La mairie...
Et pourquoi il est fermé?
Parce que, monsieur Pro, pour une mairie, gérer un camping, c'est impossible. Nous, on a fait un calcul, en équivalent temps plein pour une mairie, pour gérer un camping, on est à 6 équivalents temps plein par semaine. Mmh. Donc gérer la masse salariale de 6 personnes à temps plein par semaine, autant vous dire qu'à la fin de l'été, la masse salariale est supérieure au chiffre d'affaires.
Et là, vous serez combien à travailler dessus ?
Là, on n'est que deux. Mais comme on est, comme c'est privé, là, 35 heures, on les fait en 2 jours. Quoi. C'est ça que bon. Ça fonctionne. Mais
vous avez une idée du chiffre d'affaires que vous allez sortir la première année ?
Alors, un camping, ça monte vraiment petit à petit parce que souvent, c'est une clientèle habituée. Donc, il faut beaucoup de temps. Ça monte vraiment crescendo petit à petit. Là, on est à peu près 60 000 euros de chiffre d'affaires espéré la première année. Et nous, on espère atteindre les 200 000 euros de chiffre d'affaires à horizon 5 ou 6 ans.
Ce qui vous permettrait, avec alors en frais de fonctionnement, il y aura vous évidemment, mais bon, vous allez travailler toujours et tout le temps. Mais autrement, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que vous allez payer en frais de fonctionnement dans votre camping?
Alors, comme nos amis boulangers, pour un camping, la plus grosse facture, c'est la facture de courant. Notamment, nous, si on est ouvert à l'année, même en hiver, un mobil-home, certes, maintenant, les mobil-homes sont nouveaux, donc ils sont très bien isolés, mais il faut quand même les chauffer l'hiver, et c'est pas aussi hermétique qu'une maison. Donc,
et c'est vous qui payez, là, c'est pas le campeur qui paye l'électricité.
Non, le campeur paye son emplacement.
Il paye la nuit et l'emplacement. Voilà, et c'est à l'ancienne, on peut venir avec sa tente, par exemple, ou il n'y a que des mobil-homes aujourd'hui dans les campings?
Non, on a un camping donc de 2 hectares, donc on a environ 90 emplacements. Là, on a 14 mobil-homes pour cette année. Mmh. Et après, le reste, on n'est que sur des magnifiques emplacements nus, au calme, avec le chant des oiseaux.
Vous avez prévu un camping, une petite piscine, quelques activités pour les jeunes, pour les enfants?
Alors, activités, nous sommes tout proches d'une base de loisirs. La Fatébanar est une ville extrêmement sportive, qui profite d'une base de loisirs très active. Et donc il y a un grand lac avec une plage surveillée l'été, beaucoup d'animations sportives, des activités du tir à l'arc, il y a même des balades en Rosalie qui sont disponibles. Donc on a vraiment la chance de profiter de la base de loisirs sans pour nous devoir investir dans une piscine, qui est un investissement pharaonique pour un petit camping comme le nôtre. Ouais.
Bon bah écoutez Romain, ce qui serait bien, il ouvre quand le camping?
Alors, pour l'instant, on est un petit peu dépendant des services publics comme Enedis, comme l'Assor, qui ne bougent pas très très vite. Mmh. Mais donc, on espère ouvrir aux environs du 1er juillet.
Bon, bah écoutez,
on vous appellera.
On pourrait peut-être y aller.
Bah, moi, je passerai. C'est sur ma route pour aller en Bretagne, c'est à côté de la 11.
Bien voilà. Sûr.
Merci pour cette info.
Mais oui, c'est vrai, Romain, j'ai raison. Ça peut être un camping relais aussi pour les gens qui prennent la route.
Un camping relais. C'est-à-dire que quand vous allez en Bretagne, vous dormez.
Oui, je m'arrête dans un hôtel.
En deux fois.
Exactement.
Ah,
oui, je fais en deux fois avec ma fille. Ouais. C'est trop long, sinon.
Non, c'est vrai.
Oui, je fais en deux fois. Ouais. Je m'arrête d'habitude à Rennes, à l'hôtel, et je reprends la route le lendemain.
Ah bon?
Oui. Bah,
vous pourriez faire d'une traite.
Ah non, ma fille est malade en voiture, donc je fais attention.
Vous voulez en marche arrière?
Je suis sûre que je ne suis pas la seule à le faire.
Vous mettez 2h30 en voiture.
Bah oui, mais moi j'y vais tranquillement, je m'arrête à Rennes et je reprends la voiture le lendemain. Non, voilà. Bah donc je pourrais m'arrêter au camping de Romain.
Mais elle est malade votre fille en voiture?
Un petit peu, elle ne sent pas très bien parfois.
Mais c'est quoi? C'est une dauphine que vous avez comme voiture? C'est quoi?
Non, tous les petits chemins.
C'est une héroïne.
Non, c'est une petite voiture sympa.
Bon, merci Romain.
Il est fort, Romain.
Il est fort, Romain. 22 ans. Vous exprimez bien, Romain, effectivement. Non, mais vous êtes. Mais je vais vous dire, vous allez réussir, Romain, pour une raison simple, c'est que vous le voulez. C'est aussi bête que ça.
Oui, exactement. Comme je l'ai dit, j'ai jamais trouvé un travail qui motivait. Voilà. Là, ça fait un mois et demi qu'on est sur place. Je travaille tous les jours de 6h à 23h et je ne suis jamais fatigué. Et je me lève avec la faim, la rage aux dents, parce que j'ai envie que ce camping soit monté.
Et votre fiancée aussi?
Ah oui, vraiment, on est, comment dire, quand on est dans une même galère, là actuellement, on est dans un camping qui est fermé, on n'a pas de logement de fonction, on cuisine dans un bloc sanitaire, donc on est dans une galère commune à deux, et ça nous a vraiment soudés, donc on est ensemble.
C'est Koh-Lanta, votre affaire.
voilà, on est ensemble,
donc c'est l'amour.
On est soudés pour.
C'est l'amour,
c'est beau.
Exactement.
C'est l'amour avec Jeanne.
C'est l'amour de jeunesse qui se transformait en une belle aventure entrepreneuriale.
Eh bien, on vous rappellera et puis on essaiera de passer, pourquoi pas, à l'affaire. Vous connaissez l'affaire Thébernard?
Bah ça y est, je connais depuis quelques minutes, oui. 6h23 l'amplitude horaire. Est loin de celle de Florian Carassou-Maillon, sans vouloir être insistant.
Lui, c'est de 6h jusqu'à 6h23.
Excusez-moi, monsieur Pro, est-ce que vous permettez que je donne les coordonnées du camping?
Bien sûr. On va faire un peu de pub, tant qu'à faire.
Donc, c'est très gentil à vous. On a donc une page Facebook qui s'appelle Camping la Venise de l'Ouest à la Fatébernard. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail camping.veniseouest@gmail.com. Merci à vous, monsieur Pro.
Maintenant, je vous en prie, la Venise de l'Ouest.
Moi, j'irai.
La Venise de l'Ouest. Donc, on va donner peut-être le nom d'un autre camping, si vous en connaissez un. Hein. On peut parler des Flots Bleus.
Oui, évidemment.
Les Flots Bleus en Gironde, je crois.
Et le Camping Paradis.
Le Camping Paradis, c'est sur
TF1. Oui, c'est une série télé. Ils en une déclinaison, une chaîne maintenant. Une chaîne de camping en France. Il a enquêté pour dire ça. Je suis arrivé tôt ce matin pour le dossier.
Bon, bah, écoutez, on va recevoir Émilie Dez dans quelques secondes, et puis on va peut-être parler d'Ayrton Senna, parce que Ayrton Senna, ça fait 30 ans, jour pour jour, qu'il nous quittait. C'était un dimanche, 1er mai, c'était sur le circuit d'Imola, en pleine course, accident tragique, vous le savez. Et la veille, aux essais, s'était tué Ratzenberger. Ça avait été un week-end absolument dramatique pour les amateurs du monde entier de Formule 1, mais également pour les autres. Ayrton Senna, c'est une icône et c'est une légende. 12h29, à tout de suite.
01 80 20 39 21, c'est le numéro non surtaxé pour réagir avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1.
Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1,
rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99 € au lieu de 599,99 €. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58-CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18 € et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59 €.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr.
40 ans de regard incisif sur l'Amérique. C'est ce que propose le musée Mayol en présentant une grande rétrospective de l'artiste américain Andrés Serrano. Plus de 80 photographies révèlent une Amérique aux mille facettes. Religion, sexe, pauvreté, racisme, Andrés Serrano explore tous les tabous de son pays. Andrés Serrano, portrait de l'Amérique, une exposition au musée Mayol à Paris, un partenariat Europe 1.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Dortmund, Paris SG, ce soir à 21h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait deux jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1, le journal permanent.
Il est 12h32, nous sommes avec Émilie Dez.
Raphaël Glucksmann voulait défiler à Saint-Etienne pour le 1er mai. Il a dû y renoncer. La tête de liste PS aux européennes a reçu de la peinture. Il a été insulté par une cinquantaine de personnes, certains appartenant à la France insoumise selon lui. Je me dresserai toujours contre ce type de comportement violent, a réagi Gabriel Attal depuis Beaugency dans le Loiret. Jean-Luc Mélenchon dit désapprouver totalement. Les syndicats défilent aujourd'hui partout en France. Jusqu'à 150 000 personnes sont attendues dans les rues. Depuis Perpignan, Jordan Bardella a choisi, lui, de présenter les 35 noms de sa liste pour les élections européennes. Le président du RN, largement en tête des intentions de vote devant la majorité et le PS. Des affrontements ont éclaté la nuit dernière sur le campus UCLA à Los Angeles en marge de manifestations pro-palestiniennes. À l'université de Columbia, la police est intervenue pour déloger les manifestants barricadés dans un bâtiment au Proche-Orient. Le compte à rebours retour est lancé. Le Hamas a jusqu'à ce soir pour donner sa réponse à l'offre de trêve avec Israël. Au lendemain du rapport qui lui a été remis sur l'usage des écrans et des téléphones chez les jeunes, Emmanuel Macron a donné un mois au gouvernement pour dégager des mesures. Rapport qui préconise d'interdire les smartphones au moins de 13 ans et les réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et puis du foot, le PSG affronte le Borussia Dortmund à 21h ce soir. Demi-finale aller de la Ligue des Champions. Hier, le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait match nul de partout.
Merci Émilie, il est 12h33.
Europe 1, Pascal Pro, de 11h à 13h avec vous sur Europe 1.
Les 30 ans de la mort du pilote de Formule 1 brésilien Ayrton Senna, c'était le 1er mai 1994, un accident tragique sur le circuit d'Imola. Écoutez, cette archive d'Europe 1, on est le 1er mai, il y a exactement 30 ans.
Il restera gravé, ancré, comme on va dire un peu le dieu des circuits qui a perdu la vie. Et indirectement, oui, je reste associé à ça. Mais vraiment, outre le pilote, moi j'étais à ses funérailles au Brésil, je vois au quotidien, j'ai des messages de Brésiliens absolument tous les jours, et je vois à quel point il a marqué les gens. C'est pas uniquement l'histoire d'un palmarès. Et quand je revois des vidéos de ses funérailles nationales, c'est absolument incroyable. Un mythe, ça ne s'explique pas, mais c'est devenu vraiment le mythe de la course automobile, plus que Fangio, plus que plein d'autres pilotes, et il sera vraiment unique dans la mémoire des gens.
Et vous aurez compris que c'était Alain Prost aujourd'hui, Alain Prost au micro d'Europe 1 de Jacques Vendroux. Mais avant d'être avec Julien Febraud, qui est journaliste, commentateur Formule 1 pour Canal+, mais qui a également travaillé pour Europe 1, je voulais qu'on écoute une ou deux archives et peut-être davantage. Écoutez par exemple ce que disait Alain Prost avant le Grand Prix du 1er mai 1994.
Je vous propose maintenant d'écouter ce que disait Alain Prost à Dominique Bressot juste avant ce Grand Prix sur les conditions de course de plus en plus dures.
Quand une voiture de course, quelle qu'elle soit, sort de la route à 300 à l'heure, plus de 300 à l'heure, causée par un accident mécanique, dont une perte d'aileron apparemment, il faut avoir beaucoup, beaucoup de chance pour s'en tirer indemne. Ça peut arriver. C'est arrivé déjà dans le passé, mais il ne faut pas non plus compter que sur la chance. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de courir, vous le savez très bien, les notions de risque.
Dominique Bressot a longtemps commenté la Formule 1 pour Europe 1. Écoutez son reportage il y a 30 ans.
Nous avons du mal à trouver les mots pour vous raconter ce qui s'est passé au moment où l'hélicoptère qui a pris position sur la piste est en train de décoller et donc d'évacuer Ayrton Senna en direction de l'hôpital de Bologne. Nous pensons que l'état de santé du pilote brésilien est grave. Ayrton Senna, après que la course ait été neutralisée pendant 5 tours en raison d'un carambolage très spectaculaire mais sans gravité pour les pilotes entre la Benetton Ford de Gigi Leto et la Lotus de Pedro Lamy, eh bien, après que cette course ait été neutralisée, la voiture de sécurité était rentrée donc au stand, libérant les bolides qui avaient accompli un premier tour lancé. Ayrton Senna menait la course devant Schumacher, une demi-seconde derrière lui. Et subitement, ces images effrayantes de la courbe de Tamburello, c'est-à-dire quelques mètres juste avant l'endroit où hier le pilote autrichien Ratzenberger a perdu la vie. Ces images de la Williams Renault Elf numéro 2, donc lancée à pleine vitesse dans la courbe de Tamburello. C'est une courbe très rapide à gauche qui se passe à fond. C'est 330 km/h à bord d'une Williams. Et puis, cette courbe à gauche que Ayrton Senna ne peut pas négocier. Et Ayrton Senna va immédiatement tirer tout droit sur la droite de la trajectoire, sur la droite, et va taper le mur en béton qui est juste là. Pourquoi un garçon comme Ayrton Senna est-il sorti? Il n'y a pas eu de faute de ce garçon qui est un véritable magicien du pilote. Il a été prisonnier d'une mécanique qui était en défaillance, semble-t-il. Alors nous l'avons vu bouger un petit peu son casque, bouger sa tête, mais après il est resté immobile. Les médecins et les secouristes se sont portés immédiatement auprès de lui, l'ont sorti avec précaution, et malheureusement, Ayrton Senna a perdu beaucoup de sang dans cet accident.
Toute l'émotion de Dominique Bressot il y a 30 ans, et puis une dernière archive que je voulais vous faire entendre, c'est lorsqu'on comprend que c'est fini pour Ayrton Senna, et c'est Jean-Baptiste Venditti qui le dit.
Conférence de presse, la troisième depuis le début de l'hospitalisation de Ayrton Senna au Grand Hôpital de Bologne, vient de donner cette information. Mort cérébrale, encéphalogramme plat. Et pour l'heure, ce n'était pas la dernière conférence de presse, pour l'heure, tous les espoirs de revoir Ayrton Senna vivant se sont pratiquement éteints. Voilà ce que vient de donner le responsable du service de réanimation de l'Hôpital de Bologne. C'est l'information qu'on vient d'avoir et apparemment la plus triste et la dernière de la journée au terme d'un Grand Prix qui s'est révélé dramatique.
On va être avec Julien Febreau ce jour-là d'ailleurs, et on peut avoir une pensée pour lui parce que courait sur la piste d'Imola Schumacher, qui était d'ailleurs pas très loin finalement d'Ayrton Senna. Bonjour Julien Febreau.
Bonjour Pascal.
Chacun vous connaît, vous êtes commentateur Formule 1 pour Canal+. Il reste, je suis pas spécialiste bien sûr comme vous, mais il reste une forme de mystère quand on voit, quand on revoit ces images. Je les ai revues encore ce matin. On comprend mal pourquoi, même 30 ans plus tard, Senna est allé tout droit à ce moment de la course.
Oui, il y a la thèse, ou en tout cas le contexte le plus crédible, qui est une rupture mécanique sur la voiture d'Ayrton Senna. Il faut, dans le contexte de l'époque, rappeler qu'il n'est pas heureux de cette monoplace. Cette Williams n'est pas la voiture la plus réussie de l'ingénieur anglais Adrian Newey. Il se plaint de son comportement. D'ailleurs, tout au long de ce week-end à Imola, il va se plaindre de son comportement, de son équilibre qui tantôt rend la voiture très souvent vireuse, à d'autres moments très survireuse, et puis il a fait modifier la taille de la colonne de direction de sa Williams auparavant, parce que la position dans la voiture n'est pas confortable pour lui, ça crée d'ailleurs des stress musculaires en haut du corps, et donc il a fait raccourcir légèrement la colonne de direction pour que le volant soit un petit peu moins près de lui et qu'il puisse étendre un tout petit peu plus ses bras. Il va être pointé du doigt cette modification. On va parler d'une soudure faite sur la colonne de direction qui aurait pu lâcher à ce moment-là, ce qui ferait que Senna a bien entamé le virage de Tamburello. On entendait Dominique Bressot nommer ce virage désormais tragiquement mythique, et on a suspecté cette colonne de direction d'avoir cédé sous la charge. Les F1 généraient beaucoup d'appui aérodynamique, de charge au sol. On a aussi dit qu'après avoir passé du temps derrière la voiture de sécurité à la relance, les pneus n'étaient peut-être pas dans une fenêtre de température efficace. La Williams, c'était une voiture qui roulait très très proche du sol, on la voyait souvent rebondir, provoquer quelques étincelles. Est-ce qu'il y aurait eu un décrochage à un moment donné? Voilà, il y a eu beaucoup d'éléments posés sur la table. Celui qui a été le plus retenu et le plus probablement retenu, c'est cette rupture de colonne de direction.
Et puis on a ajouté qu'une roue était peut-être venue heurter son casque alors qu'un bras de suspension a perforé l'habitacle lorsque la monoplace s'est fracassée contre ce mur en béton. Alors ce week-end-là, je ne sais pas quel âge vous aviez, Julien, mais moi je m'en souviens très très bien parce que TF1 retransmettait d'abord la Formule 1 à l'époque et Ratzenberger était décédé dans une série d'essais la veille, donc le samedi. Et il y avait également Rubens Barrichello, qui était le compatriote de Senna, qui avait eu aussi un accident ce même week-end. C'était il y a 30 ans. Et depuis, quand même, et heureusement d'ailleurs, la sécurité a fait beaucoup de progrès. Vous qui commentez pour tous les amateurs de Canal, les conversations que vous avez avec les pilotes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont rassurés sur l'état de leur voiture d'abord, l'état des circuits ensuite, et puis la possibilité d'intervenir en cas d'accident enfin?
Alors, oui, ils le sont, mais ils ne le sont jamais complètement, et surtout, ils ne relâchent jamais la pression sur les autorités dirigeantes de la F1, sur les organisateurs de Grand Prix, et il y a cette association des pilotes, le GPDA, le Grand Prix Driver Association, qui a été relancé après la mort d'Ayrton Senna, et c'était là tout un sujet, et Alain Prost en parle dans l'une de vos archives, à l'époque de l'accident d'Ayrton Senna, Alain Prost, comme d'autres, pointe du doigt le fait qu'on laisse complètement tomber la sécurité à ce moment-là en Formule 1, qu'on ne parle plus de sécurité, qu'on s'appuie simplement sur des accidents où les pilotes s'en sortent bien, et Alain Prost parlait bien de miracles, et les miracles n'allaient pas continuer éternellement. Et il avait été créé longtemps auparavant cette association des pilotes pour qu'ils aient une voix face aux instances dirigeantes, et 12 ans avant la mort de Senna, cette association des pilotes était tombée en sommeil. Elle va être créée 15 jours après l'accident d'Ayrton Senna à Monaco. Tous les pilotes se rassemblent de nouveau en disant ça ne peut plus durer, Évidemment, Imola est plus qu'un électrochoc. À Imola, on a perdu deux pilotes, on aurait pu en perdre plus. Des mécaniciens ont été blessés dans la voie des stands, des spectateurs ont été blessés au départ par des roues qui se sont envolées dans les tribunes. Ça n'était plus acceptable du tout. Les F1 étaient de manière disproportionnée, puissante, agressive dans les virages et surtout dangereuse. Revoyez ces photos ou ces images d'Ayrton Senna, dont on voit la tête et les épaules hors de la voiture. À l'époque, les pilotes étaient bien, bien moins protégés qu'aujourd'hui. Donc évidemment, il y a eu un avant et un après Imola 94, mais aujourd'hui encore, il y a des situations où les pilotes disent « Attention, au nom du spectacle, au nom de ce qu'est la Formule 1 et de ce qu'elle a de plus intéressant à suivre pour les passionnés, ne transigeons pas sur la sécurité et on peut toujours faire mieux en matière de sécurité. »
Vous êtes sur Europe 1, il est 12h43. Julien Febraud est avec nous, il est journaliste commentateur pour Canal+. Il a d'ailleurs travaillé également pour Europe 1, Julien, il y a quelques années, dans cette maison bleue. Et puis, vous suivez bien sûr les Grands Prix pour, je le disais, tous ces amateurs, avec Verstappen, qui est toujours en tête d'ailleurs aujourd'hui, et qui s'envole peut-être vers un nouveau titre de champion du monde. Vous nous direz peut-être cela dans quelques secondes, mais depuis 30 ans, il y a eu, j'allais dire, qu'un seul mort, mais cette expression est tellement abominable. Et elle a concerné Jules Bianchi en 2014. C'est le seul pilote qui a trouvé la mort après, en Formule 1, hein, bien sûr, après cet accident de Senna. Donc c'était il y a 30 ans, Jules Bianchi, c'était donc en 2014. Donc depuis 10 ans, pas d'accident en F1. Et puis, on avait une pensée, évidemment, pour Schumacher, même si les informations sont toujours au compte-gouttes. Évidemment, on comprend que la situation est stable, qu'elle ne bougera plus, qu'elle n'évoluera plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au chevet de Michael Schumacher. Je sais que Jean Todt y va régulièrement. Je ne sais pas si vous avez des contacts avec la famille.
Non, la famille, et c'est son droit le plus cher, souhaite garder une discrétion absolue sur la situation de Michael Schumacher. Effectivement, Jean Todt est l'une des très très rares personnes à pouvoir se rendre auprès de lui, et la famille est très vigilante à la protection de sa vie privée. Donc on n'a pas d'informations liées à l'état de santé de Michael Schumacher. On aimerait en avoir, parce que évidemment les fans de Michael Schumacher sont nombreux à travers le monde, et on aimerait s'entendre un jour dire qu'il va mieux. Maintenant, voilà, il faut être lucide et respecter aussi le choix de la famille. Mais s'il n'y a pas de nouvelles, c'est qu'elles ne sont certainement pas exceptionnelles. Ils l'ont dit dans un documentaire il y a quelques temps, et je pense que c'était la dernière fois qu'ils souhaitaient s'exprimer publiquement. Ce n'est plus le Michael que nous avons connu auparavant, mais la famille, voilà, est d'une grande, grande discrétion, et il faut respecter cela.
Bon, dernière chose, Verstappen, il a 110 points, je crois, hein, j'en suis sûr même, puisque j'ai le classement sous les yeux. Donc, il a gagné 4 victoires, il a fait 4 podiums. C'est vrai qu'il s'est déjà détaché. Alors, je dis le premier Français, mais il n'est pas Français d'ailleurs, Charles Leclerc. Hein. Il est monégasque.
On aimerait.
Bon, un champion du monde français, un grand champion du monde français, on l'espère pourquoi pas un jour. Je ne sais pas s'il y a des jeunes gens qui sont dans les écuries que vous connaissez et qui ont un talent et qui pourraient peut-être émerger au plus haut niveau. Quel est le plus grand champion français de Formule 1 de l'histoire? Alain Prost.
Là, voilà, la question est simple. Alain Prost, évidemment, non, au-delà des 4 titres de champion du monde, ce qui fait évidemment un palmarès que très peu peuvent revendiquer, mais c'est ce qu'Alain Prost a été tout au long de sa carrière. Et puis, puisqu'on parle d'Ayrton Senna, ils sont indissociables l'un de l'autre. L'un
Bien
était
sûr.
le professeur d'un travail chirurgical, Alain Prost, et Magic Senna, puisque c'était son surnom, était le pilote à la fois mystique, à la fois habité, ramenant toujours ou quasiment toujours ce qu'il faisait à Dieu, et capable de vous décrire pendant 20 minutes un tour de qualification tant il rentrait dans une transe exceptionnelle. Il l'avait notamment fait à Monaco, et Alain Prost me disait: je n'étais pas prêt à l'époque à prendre la quantité de risques qu'Ayrton Senna prenait.
Mais bien sûr, et on l'avait senti en 94 d'ailleurs, on avait senti que parfois, disons-le, il y avait plus de pro-Senna que de pro-Prost à l'époque, parce qu'il y avait quelque chose de plus flamboyant chez Senna. Mais Prost est vivant. Et Senna, évidemment, s'est tué sur un circuit. Il y a aussi cette dimension-là, Julien.
C'est
C'est sa dernière victoire à Alain Prost. C'est d'être resté vivant alors qu'il a piloté à une époque où, pas tous les week-ends, mais presque, il y avait des blessés graves et où des pilotes qui décédaient sur la piste. Donc l'une de ses plus belles victoires, c'est d'être aujourd'hui en pleine forme, d'être le Alain Prost que l'on connaît. Et l'amitié qui s'est créée après l'arrêt de la carrière d'Alain Prost avec Ayrton Senna était aussi très touchante. Et ce message lancé à la radio par Ayrton Senna, enregistré par nos confrères de TF1 samedi matin, avant l'accident de Roland Ratzenberger, dans la voiture depuis le cockpit, où Ayrton Senna dit « Alain, tu nous manques !» Parce que sans Alain Prost, c'était plus complètement Ayrton Senna. Bien Donc sûr. L'un n'allait pas sans l'autre.
Bah merci. C'est quand le prochain Grand Prix, Julien ?
Et c'est ce week-end, c'est le Grand Prix de Miami, c'est à Miami, et donc vous pourrez suivre ça sur Canal+. Et pour l'anecdote, le grand ingénieur qui aide à construire les voitures de Verstappen, puisque vous me parlez de Max Verstappen, qui a créé des McLaren championnes du monde, qui a créé des Williams championnes du monde, qui a fait dessiner les Red Bull championnes du monde de Max Verstappen, eh bien, il l'a annoncé aujourd'hui, il va quitter l'écurie Red Bull. Donc ça va peut-être faire bouger
les lignes. Et le Grand Prix d'Imola, c'est quand désormais ?
Eh bien, ce sera 15 jours plus tard, ce sera dans un peu plus de 15 jours maintenant.
Vraiment merci, c'est toujours un plaisir de vous écouter et puis vous nous faites tellement vivre ça avec émotion, avec
passion
que c'est un plaisir de vous écouter sur Canal, bien évidemment. 12h49, nous marquons une pause et ça va être peut-être le grand débrief de Monsieur Tessier.
J'arrive.
Ah oui, arrivez parce qu'on vous attend.
Vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1. Et l'histoire d'Ayrton Senna, c'est l'histoire que vous racontera Stéphane Bern cet après-midi sur Europe 1. Écoutez.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve cet après-midi de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Alors qu'un terrible accident lui a coûté la vie il y a 30 ans jour pour jour, je vous raconte le destin du pilote brésilien qui a traversé son époque comme les circuits à toute vitesse. La véritable histoire d'Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est cet après-midi de 15h à 16h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux.
Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R, la mondiale, vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R, la mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
Carrefour. Pour les French Days, avec 100 euros de remise immédiate et 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, le téléviseur Samsung LED 4K 145 cm revient à 399,99€ au lieu de 599,99€. Et c'est jusqu'au 13 mai dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Limité à 1800 pièces, référence TU58-CU7105, garantie légale 2 ans, détails sur carrefour.fr.
Il est 12h52, vous écoutez Pascal Praud et vous, et la suite c'est dans moins d'une minute avec le grand débrief de Laurent Tessier, un petit peu oui, donc je vous rappelle que ce soir, dès 21h, de 21h à 22h, vous retrouvez Elisabeth Assayag pour La France Bouge, et ce soir, écoutez La France Bouger pour la protection des animaux. Elisabeth Assayag reçoit Rodolphe Delors, président directeur général du Zoo Parc de Beauval et président de l'Association Française des Parcs Zoologiques.
À Beauval.
Oui, le président sera ce soir chez Elisabeth Assayag, de 21h à 22h dans La France Bouge.
Vous êtes déjà allé à Beauval? Moi, j'ai
jamais.
Mais on n'a plus de nouvelles de notre panda à Beauval.
Oui, allez, il faut qu'il revienne. À tout de suite sur Europe 1.
Pour certains, le bonheur, c'est de tout posséder. Pour d'autres, de tout partager. Pour Maxiso, le bonheur, c'est de tout donner. En ce moment, pour votre félin, le sac de croquettes Royal Canin 4 kg pour chat stérilisé est à seulement 36,99€. 36,99€ au lieu de 39,99€, soit 9,25€ le kilo. Car nous sommes heureux quand vous l'êtes. Maxiso, tout pour vos animaux. Réélu meilleure chaîne de magasins 2024, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable jusqu'au 8 mai en magasin et sur maxiso.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi, je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable. Hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Europe 1.
Le grand débrief de Pascal Pauvre.
Monsieur Laurent Tessier.
Enchanté. Nous sommes le 1er mai. Et comme le dit Pascal, vous êtes peut-être à l'écoute de l'émission pour la première fois du grand débrief. Alors, message d'accueil.
Soyez les bienvenus.
Oui, c'est la famille. Et nous avons toujours ce message de coach Pascal avant le début de chaque émission.
Soyez solidaires les uns des autres. Aidez-vous toujours dans la vie. Toujours. Soyez vraiment attentifs l'un à l'autre.
Oui, solidarité entre nous, surtout quand Dame Gégé prend la parole et nous parle de son amoureux.
Ah, non, mais ça porte pas chance.
Géraldine, on vous a offert du muguet aujourd'hui ?
Non, pas encore.
Ah, mais il est où votre amoureux ?
Il est à la maison, il nous écoute.
Avec son autre amoureuse.
Non, je moi, j'ai un amoureux.
Et nous savons nous mettre en avant respectivement, n'est-ce pas, Gégé ?
Bon, si vous nous appelez, appelez-nous.
La cause d'Émilie Dès va venir.
Oui, et vous, appelez-nous pour réagir, témoigner.
Si vous nous appelez, appelez-nous. Je répète ce qu'a dit Gégé il y a quelques minutes. Une phrase qui restera dans l'histoire. Bon, vous avez entendu que M. Boubouk aimait la provocation. C'est Dark Boubouk aujourd'hui. Après avoir attaqué Dame Gégé, Dark Boubouk s'en est pris à notre grand maître de la force, notre Yoda, Jacques Vendroux.
Monsieur Vendroux est là.
Chers amis,
Monsieur Vendroux qui a vécu...
L'époque préhistorique.
Pauvre maître Jacques. Bon, nous avons eu l'honneur de recevoir Jacques pour son nouveau pronostic avec le Paris Saint-Germain. Souvenez-vous quand même du quart de finale contre Barcelone.
Arrêtez. Vous voulez que je vous dise la vérité ?
Oui.
Je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé ce soir. Je vous le dis.
Cette fois, c'est fait ! Le Paris Saint-Germain va jouer les demi-finales !
Mais oui ! Alors là, le moment était très attendu. Musique, DJ Fab, le retour de Jacques Addy ! Ah, cette rubrique, j'adore. Jacques a dit quoi aujourd'hui sur la demi-finale aller ce soir, Borussia Dortmund PSG ?
Alors autant je me suis complètement gouré la dernière fois, et j'assume, autant là, j'ai une grande, grande confiance. Parce que d'abord, pour la première fois, cette équipe joue avec beaucoup de sérénité.
Ouais, bah méfiez-vous ce soir les Parisiens, hein, je suis pas très confiant pour vous. Bon, en attendant la demi-finale, à suivre sur Canal+, petite pause avec le moment le plus marquant de l'émission.
Moi, je travaille dans la communication.
D'accord.
Voilà, c'est les réseaux sociaux.
Donc vous vous occupez des réseaux sociaux. Voilà.
Quel échange.
Merci beaucoup Pascal. Et une question se pose aujourd'hui. Qui a gagné hier les 166 millions d'euros à l'Euromillion ? Et pour ça, notre inspecteur Pascal a sondé l'ami de Culture Média Thomas Hill.
Et on m'a dit que c'était vous.
Quoi ?
Bah c'est vous. Mais vous osez pas le dire.
Non mais si, moi je vous confirme, c'est lui, il me l'a dit pendant la pub.
C'est moi quoi ?
Bah c'est vous qui avez gagné l'Euromillion, 166 millions.
Vous avez sondé aussi Pascal Dimitri Pavlenko pendant la matinale d'Europe 1.
Oh ! Cher Dimitri, c'est vous ?
C'est moi.
Oui, c'est vous en fait, je devrais dire même c'est toi parce que je t'aime beaucoup.
Ah ouais, moi aussi je t'aime
c'est
bien
toi.
Pascal.
C'est toi.
C'est la première fois que tu me tutoies Pascal.
Oui, parce que je sais ce qui est arrivé cette nuit.
Dimitri a été cuisiné, il avait l'air paniqué.
Ah c'est bon toi.
Qu'est-ce que toi ? Mais qu'est-ce que
on
j'ai
le
fait
sait,
c'est toi,
Dimitri.
On le sait.
On le sait.
On le sait.
C'est
quoi ?
C'est toi.
Mais non, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Dimitri, est-ce peut-être Alain ?
Oh non.
Notre directeur d'antenne à la Liberty. Bon, je ne l'ai pas croisé ce matin. En attendant d'en savoir plus, un dernier mot, ami ?
J'arrive, mais non, la playlist là, du 1er mai 2024.
Alors, mettons la playlist, quittons-nous avec la chanson préférée d'une amie de Florian Carassou-Maillan.
On vient à la maison, il y a le printemps qui chante.
tous les oiseaux
attendent
les
c'est ça
c'est un peu près.
Bonjour Pascal, bonjour comment, à tous.
Vous avez un air de Claude François un peu.
Oui, vous trouvez, oh, bah, écoutez, le téléphone fleur, vous n'êtes pas là.
Belinda.
Bon, Belinda, écoutez, bon. Nous, on va évidemment revenir dans quelques instants sur ces manifestations, cette mobilisation massive ou pas d'ailleurs. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que la fête du travail a laissé place à la fête de l'extrême gauche? Ça ne vous a pas échappé qu'effectivement, après la réforme des retraites, où il y avait eu effectivement une mobilisation historique cette année, on peut se poser la question. Oui. Et non, vous vouliez m'offrir du...
Exactement, je voulais, j'ai cueilli ces
quoi
petites... Ce muguet pour
c'est
vous.
Mais
je voulais vous l'offrir.
Merci. Alors vous savez,
Anissa... Je voulais l'offrir à vous, parce que je suis allé tôt ce matin.
Y a-t-il trois brins et 13 clochettes?
Trois brins et 13 clochettes.
J'ai vidé mon porte-monnaie pour vous.
Quoi, mais...
Non, c'est moi, c'est un muguet sauvage.
Pour que ça porte bonheur, merci beaucoup Pascal, je suis très touchée. Il faut qu'il y ait trois brins et 13 clochettes.
Je les ai comptés, trois brins et 13 clochettes.
Ah ouais, comptez, ouais.
2h59, on est en retard. Merci à tous et à demain.
C'était Pascal Pro de retour demain de 11h à 13h sur Europe 1.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable. Dispositif médical.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. J'ai vu vos beaux melons charentais et du coup, je voulais vous partager ma technique pour les choisir.
Oui.
Eh ben, c'est simple. Je vais chez Leclerc, je vais au rayon primeur et je prends un beau melon charentais.
Ah ben, vous pouvez y aller. Ils sont tous délicieux et bien sucrés. Et du 30 avril au 4 mai chez Leclerc, le melon charentais vert est à 1,89€ la pièce. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours.